Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Si vous êtes régulier ici dans la communauté, peut-être que vous le savez, on fonctionne avec des séries en général. On fonctionne avec des séries de messages, c'est-à-dire que pendant un petit moment, on se concentre sur un thème, on prend un petit peu de temps pour creuser ce thème, pour réfléchir. Et puis là, on a lancé le premier thème après l'été, qu'on a appelé « Cadence ». Et en fait, aujourd'hui, on est dans le troisième message d'une série qui s'intéresse justement à retrouver un rythme. Et puis, c'est un peu bien parce que c'est à la fin de l'été. Là, la météo te le rappelle. Mais c'est aussi bien parce qu'on vient de vivre au niveau mondial bientôt 2 ans qui ont quand même chamboulé toutes nos habitudes. Et sans doute que ça a aussi chamboulé nos habitudes dans notre foi. Et puis c'était un peu l'idée de revenir sur quelques essentiels. Il y en aurait plein à voir, mais on a décidé d'en voir juste quelques-uns ensemble. Alors là, je sais, quelques-uns d'entre vous dites « Mince, j'ai pas vu les 2 derniers messages ». C'est pas grave. On est dans ce genre de série vraiment cool où tu peux venir à n'importe quel moment et puis ça va te parler. Donc, ce n'est pas un souci. Et puis, si tu as envie, les messages sont disponibles en podcast ou sur YouTube. D'ailleurs, je profite de remercier les gens qui nous suivent de cette façon. Je sais qu'il y a en général 3 façons de tomber sur ces messages. La première, c'est vraiment par hasard. Je ne sais pas comment les algorithmes font ça, mais des fois, par hasard, tu tombes sur un message. C'est assez rare, je dois dire. La deuxième, c'est ceux qui écoutent puis qui veulent réécouter. Et puis la troisième, c'est des gens qui ne peuvent pas venir puis qui écoutent en ligne. Des fois, c'est pour des questions, il n'y a plus de place dans les billets. Mais des fois aussi, c'est des gens qui sont plus loin et on reçoit des messages de gens qui nous suivent comme ça à distance. Puis juste merci de nous écouter, merci de prendre le temps. C'est un privilège pour nous de pouvoir passer ce temps avec vous. Durant cette série, on a parlé du coup de retrouver un rythme. On a parlé de comment est-ce qu'on allait faire, comment est-ce qu'on allait revenir à un rythme. J'ai donné des images la première fois un peu de course, puis c'est des images qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y a à plusieurs moments des auteurs du Nouveau Testament qui nous parlent de la course du chrétien, qui nous disent durement travailler mon corps, je ne veux pas me laisser disqualifier. Il y a vraiment ces images-là. Mais en fait, de façon indirecte, ce n'est pas tellement des choses à faire qu'on a essayé de regarder avec vous. On s'est surtout concentré sur nos postures de cœur. Quelles sont nos postures de cœur? Ce n'est pas tellement une liste de choses à faire en plus, mais plutôt comment est-ce qu'on positionne nos cœurs dans notre marche après Christ. Dans le premier message, j'ai parlé d'être des gens après la présence de Dieu. Que la présence de Dieu devait être l'essentiel pour nous, que le cœur et le projet de Dieu, c'est cette réalité fascinante qui veut être en lien avec nous. Puis c'est de la folie cette idée-là. Puis au travers de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il y a vraiment cette réalité biblique, théologique qui nous est dit un lien à nouveau possible avec Dieu. Ce lien était rendu impossible à cause du péché qui nous séparait. Dieu est saint. Et puis au travers de notre nature, on ne pouvait pas être, mais au travers de ce que Jésus-Christ a fait, on peut de nouveau. Et puis je disais que c'était un privilège, mais voilà, on est souvent tiraillé entre tellement d'options, d'alternatives, on est pressé de toutes parts, que souvent sa présence est un peu laissée de côté. C'est plus notre essentiel, c'est plus notre première chose. Puis je disais, on doit revenir à ça en fait. Sa présence, elle est disponible. Il ne faut pas faire plus ou mieux, mais il faut s'arrêter et nous repositionner. Et je posais cette question, est-ce que nous sommes prêts à être des gens avant tout passionnés par sa présence ? La semaine passée, c'est Pierre qui a parlé, Pierre Bader, pas Pierre de la Bible. Et il a continué sur le sujet de la générosité. Et puis, j'ai vraiment aimé comme il en a parlé, parce qu'il n'a pas parlé du fait qu'on devait donner ou quoi que ce soit, mais il a dit de nouveau une position. Il a dit on doit se repositionner si on est véritablement enfant de Dieu. Et si on est dans cette relation-là, alors on ose être généreux parce qu'on n'a pas peur de manquer. Et c'était vraiment intéressant, je ne sais pas si vous étiez là, moi ça m'a fait du bien ce message-là, si vous l'avez écouté aussi. J'ai vraiment aimé ça, parce que quand on se repositionne en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas peur de manquer, on n'est pas en train de calculer chaque élément, on peut simplement dans l'amour et dans la relation être généreux. Puis c'est des ajustements qu'on a vus, qui nous rappellent justement l'entraînement du sportif, mais aujourd'hui on va aller de l'avant. Et puis je pourrais vous poser les questions par rapport à la présence, par rapport à la générosité. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un autre passage, un autre texte, et puis on va parler de se repositionner dans la prière, de nouveau une question de position, puis on va parler de notre relation à Dieu, notamment dans la prière. Alors, je ne vais pas afficher le texte parce qu'il est vraiment long, mais je vais le lire calmement, et puis je suis assez convaincu que beaucoup d'entre vous, vous avez une Bible, parce que même sur le téléphone portable, vous pouvez avoir une application avec la Bible. Alors, je vous encourage à venir avec moi, je vais lire une grande portion de la Bible. On va lire presque tout un chapitre, c'est Jean au chapitre 11. Alors, je vais vous présenter un tout petit peu le passage pendant que vous cliquez jusqu'à Jean 11. Jean 11, on va voir Jésus, et puis on va voir Jésus dans un contexte où il est proche, où il va aller proche de Jean qui l'aime. Il va aller en fait proche de Marthe, Marie, et puis de leur frère Lazare. À ce moment-là, dans le passage, vous allez le voir tout de suite, on a annoncé que Lazare était mort. Et puis il va y avoir deux interactions, on va se concentrer sur ces deux interactions, une avec Marthe, une avec Marie. C'est des personnages qui sont connus, si vous lisez les évangiles, il y a quatre fois l'histoire de Jésus dans la Bible, c'est ce qu'on appelait les quatre évangiles, les quatre bonnes nouvelles. Et puis en fait, on voit ces personnages trois fois, très très clairement, ils ont une histoire entière pour eux. On a une première fois où on voit Jésus qui va vers Marthe et Marie, on nous dit juste que Lazare c'est leur frère, et puis on voit Marthe et Marie qui reçoivent Jésus chez elles. On a cette deuxième histoire où on voit Lazare qui est annoncé mort, et puis Marthe et Marie qui font venir Jésus. Et puis on a une troisième histoire où on voit surtout Marie qui va verser du parfum sur les pieds de Jésus. Donc trois moments, c'est des personnes qui sont importantes pour le cœur de Jésus. Voilà, vous êtes à Jean 11, soit dans vos Bibles papier, vintage, méga respect, ou alors sur vos téléphones portables. Et on va lire ensemble, on va lire Jean 11, 1 à 7, puis après, pour le propos, je vais aller directement au verset 17, et on va lire jusqu'au verset 35. Alors je commence Jean 11, les versets 1 à 7. « Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuyait avec ses cheveux. » C'est la référence à cette autre histoire que je vous disais. « C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Verset 4, à cette nouvelle, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples « Retournons en Judée. » On arrive au verset 17 maintenant. « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en se disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Verset 35, Jésus pleura. Intéressant comme histoire, n'est-ce pas ? Juste comme ça, à main levée, sans jugement aucun, est-ce qu'il y en a qui avaient déjà lu cette histoire, juste que je voie où on en est ? Ok, pas mal de personnes avaient entendu parler de cette histoire ou avaient déjà lu cette histoire. Spoiler alerte pour les quelques-uns qui n'ont pas levé la main, Lazare va ressusciter. Lisez la suite de l'histoire, vraiment une bonne histoire. Mais spoiler alert, tu sais déjà ça, Lazare va ressusciter. Une histoire assez surprenante, une histoire folle, une histoire malheureusement tellement connue que des fois on ne saisit pas toute la richesse de ce récit. Comme souvent, j'aime le dire, mais des fois on lit et on va trop vite au travers de la Bible, trop vite au travers des passages, puis on ne saisit plus tout ce qui se passe ici. C'est vraiment surprenant quand vous y pensez. C'est vraiment surprenant. Imaginez un petit peu avec moi la scène, j'essaie juste de vous donner un petit peu de... Si vous êtes un peu visuel comme moi, j'essaie de vous raconter cette histoire. Jésus apprend une nouvelle que son ami, et la Bible nous dit celui qu'il aime, est malade. Puis là, il se dit, c'est vraiment dommage, cette maladie n'aboutira pas à la mort, et il attend 2 jours. C'est quand même surprenant. Puis 2 jours après, c'est comme si d'un coup, il s'en rappelle, il dit, allons voir ce qui se passe là-bas. Et j'ai coupé, mais vous allez voir les disciples qui sont quand même un peu dans l'incompréhension de la décision de Jésus 2 jours après la nouvelle d'aller vers Lazare. Mais ils arrivent à Lazare et en fait, il faut comprendre, ils ne sont pas encore dans le village. C'est ça que la Bible nous dit. Hein. J'ai lu pas trop vite, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et littéralement, on nous dit, Marthe apprend que Jésus est en train d'arriver et elle court vers lui. Et là, s'ensuit une discussion digne d'une soutenance de thèse de théologie. On est au milieu d'une histoire dramatique. Un gars est mort et il commence à avoir une interaction vraiment surprenante. Vous lisez ça, puis parce que vous êtes des bons chrétiens occidentaux, vous dites oui, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas du tout normal. On est au milieu d'un deuil. Littéralement, on nous dit les Juifs de Jérusalem sont venus pour pleurer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Les deuils, il y a tout le temps des larmes. Mais dans ces sociétés-là, aujourd'hui, vous le voyez aussi dans beaucoup de sociétés dites du Sud, quand il y a un deuil, il y a littéralement des gens en pleurs, ça fait partie du processus de pleurer avec les gens, peut-être de se jeter de la cendre, de ne pas se changer, il y a tout le monde qui est là, et là au milieu, Jésus et Marthe commencent une conversation vraiment bizarre. Oui, je sais que tu es la résurrection, tu viendras lors des derniers jours, et oui, mais ce dernier jour, moi je suis déjà là, la résurrection, la vie est avec vous, quoi, mais de quoi on parle en fait? Il y a un gars qui vient de mourir, littéralement, on est en train de l'entendre, c'est quoi cette conversation-là? Et Jésus... Il discute avec Marthe et il y a vraiment plein de moments bizarres. Il termine, elle dit « Oui, je le crois », elle part. Et tu vois bien. Et Jésus, lui-même, surpris par cette intervention, s'arrête là. Il faut comprendre, ils sont en dehors du village. Marthe a le temps d'aller chercher sa sœur, de dire à sa sœur de revenir. Jésus est toujours là, au même endroit. Je pense que même Jésus a été vraiment surpris par cette discussion-là. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Puis Marie arrive, et Marie semble dire mot pour mot la même chose que sa sœur. En tout cas, le départ. Ça semble être mot pour mot la même chose. Et subitement, Jésus s'effondre et pleure. Ça devrait vous surprendre, cette histoire-là. Tu n'avais pas écouté quand Marthe te l'a dit, que Lazare était mort? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder un petit peu ça ensemble. Moi, ça a été quelque chose qui m'a énormément bousculé et qui m'a challengé dans ma vie de prière personnelle. Et je vais d'abord insister sur une chose, parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, en particulier dans notre société, on doit comprendre. Je l'ai appelé le premier point de mon message, redécouvrir le mystère dans le processus. On est dans une société où on a perdu la compétence d'attendre. On est dans une société où on veut... toujours, toujours, toujours faire plus vite. Si tu ne l'as pas perdu, sache que les neuroscientifiques sont en train de dire que ton cerveau est en train de perdre la capacité à attendre grâce à la technologie, si jamais. On a perdu la capacité d'attendre, on ne sait plus s'arrêter. Tout va toujours plus vite, tout est dans l'instantané. Ça, c'est le monde dans lequel on est. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Retour vers le futur? Je ne dis pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est un film. Il y en a qui l'ont vu, ok. C'est une trilogie pour ceux qui n'ont pas vu ce film. Et dans Retour vers le futur 2, il y a une scène vraiment mythique, un peu du cinéma, où on voit une famille autour de la table à manger. Et puis c'est une vision qu'ils ont du futur, d'accord? Fin des années 80, début des années 90, une vision de ce à quoi ça va ressembler le futur. Et puis il y a la maman qui va préparer une pizza. Et puis elle prend une pizza, et toute petite, elle la met dans un type de four micro-ondes du futur. Et moins de 20 secondes après, la pizza a grandi, tout le monde mange. Puis les gens disent « c'est incroyable comme t'es une bonne cuisinière, maman ». Et puis voilà, c'est la fin de la scène, hein, la scène de la pizza dans Retour vers le futur. Et je crois qu'on est gentiment rendu à ça, on ne sait plus attendre. On veut ces plats, alors aujourd'hui c'est les micro-ondes, on n'en est pas encore là, ils sont trompés, ce n'étaient pas des prophètes, d'accord, c'était juste une image qu'ils avaient du futur. Mais à plein d'égards, ils ont raison, on est rendu à ça, on ne sait plus attendre, on veut que ça aille plus de plus en plus vite, que ce soit dans une file, dans un magasin. Alors aujourd'hui, je sais, la jeune génération, vous n'allez même plus dans les files. Vous allez vers les guichets où vous n'avez pas besoin de parler à personne. Mais quand il y avait encore des files dans les magasins, on était rendu au stade où tu comptais combien. Il y a 3 personnes ici. Ici, il y a 2 personnes. Je vais là, il y a 1 personne. Est-ce qu'ils vont ouvrir une prochaine caisse? Parce qu'il y a quand même 3 personnes dans la caisse. On n'a plus le temps d'attendre. Et à qui est-ce que c'est déjà arrivé? Tu vas dans la file où il y a une seule personne, mais il y a un problème et ça t'énerve. Tu te sens roulé. Tu dis, j'aurais dû aller dans l'autre caisse. Il y avait 2 personnes, mais regarde, ils sont déjà partis. Même celui qui est arrivé après moi est déjà parti. Je suis en train d'attendre. Pourquoi? On ne sait plus attendre. On est rendu à ça. Regarde quand ton ordinateur veut charger une page Internet et que dans un cliquement d'œil, un clignement d'œil, la page n'est pas là. Tu commences à dire, mais il se passe un problème avec Internet. Est-ce que le Wi-Fi est là? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui se souviennent du Internet 56K, où tu branchais sur le téléphone, où ta page, elle arrivait bout par bout. Là, nous, on ne sait plus attendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais papa, il y a un problème avec le Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que... Non, on est perdu. On ne sait plus attendre. Regarde sur ton téléphone. Ça m'est arrivé 2 fois cette semaine. Je voulais montrer quelque chose à quelqu'un sur mon téléphone. Ça ne marchait pas. J'étais en colère. Je te jure, je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. 3 secondes plus tard, je ne comprends pas. Je vais appeler Apple. Je pense qu'il y a un problème de fabrication. On ne sait plus attendre. Certains vont dire que c'est Apple le problème. Dans l'histoire qu'on vient de lire, Jésus semble avoir 4 jours de retard. Dans l'histoire qu'on a lue, Jésus semble avoir 4 jours de retard. Il a reçu un message WhatsApp l'informant que Lazare n'allait pas bien. Émoticône avec le thermomètre. Ton gars Lazare est malade. Et lui, chose étonnante, il décide d'attendre 2 jours avant de se mettre en route. Je crois qu'il faut qu'on apprenne quelque chose ici. Il nous faut apprendre à attendre. Il nous faut redécouvrir la beauté des processus. Il ne se passe pas rien dans les processus. Il y a beaucoup de choses qui prennent place. Et j'aimerais vous dire ça comme ça, Dieu est intéressé à nos cœurs et à nos attitudes beaucoup plus qu'aux résultats. Dieu est vraiment intéressé par nos cœurs, par notre attitude, beaucoup plus par le résultat. Lui, il sait très bien ce qui va se passer au passage, hein. Quand tu lis l'histoire au verset 4, il dit tout de suite, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Il l'a annoncé si jamais. Il sait très très bien ce qui se passe. Mais c'est comme s'il laisse un processus prendre place. Et j'ai envie de te dire, ce processus est révélateur. Qu'est-ce qui va se passer dans nos cœurs quand il y a un processus qui prend place? Quand les choses ne se passent pas en un claquement de doigts? Quand la prière à laquelle tu pensais n'est pas tout de suite répondue, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Je te l'ai dit, les scientifiques sont de plus en plus en train de réaliser, il y a des études depuis 2010 à peu près en neurosciences qui montrent comment notre cerveau, au travers notamment de la technologie, perd la capacité à attendre. On n'arrive plus à attendre. C'est un truc de fou, ça se voit avec les enfants. Les enfants, ils savaient attendre avant. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus attendre parce qu'au moment où il y a un temps mort, on leur met un écran devant les yeux. iPhone, iPad, quelque chose, on leur met une tablette, voilà, regarde ça et tu t'ennuieras pas. Et du coup, on ne sait plus attendre, on ne sait plus qu'est-ce que c'est que de juste... Pff. Je me souviens, on allait en vacances avec mes parents et souvent on avait 12 heures de route. Et c'était à l'époque où il n'y avait pas ces tablettes, il n'y avait pas ces écrans, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et c'était à l'époque où avant, alors il y avait pour les grands, il y avait les Walkman, si jamais. Nous, on avait le Walkman dans la voiture. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un Walkman, on priera pour toi à la fin, ce n'est pas un problème. Mais pour les autres, c'était juste 12 heures. Tu sais le nombre de jeux qu'on a inventés pendant ces 12 heures? Le nombre de trucs incroyables qu'on a vus? Oh, regarde, un autre champ de tournesol. Fou, ça! On avait appris ça et on est en train de le perdre. On est vraiment en train de le perdre. Je crois que quelqu'un doit vraiment entendre ça aujourd'hui. Dieu n'est pas en retard. Même s'il semble être en retard d'après ta vision à toi, tes normes à toi, mais Dieu n'est pas en retard. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas sans importance, il y a un processus qui prend place. Et puis il y a de la beauté dans le mystère du processus. Je crois qu'on doit le découvrir. Thérèse d'Avila est une religieuse espagnole du XIVe siècle. un personnage vraiment clé, notamment pour tout ce qui est de la branche catholique. C'est une mystique, elle est considérée comme une figure majeure de la spiritualité chrétienne, Thérèse d'Avila. Puis il y a un récit, il y a des biographies, alors quand ça date autant, voilà, c'est raconté, on ne sait pas à quel point tout est véridique, véritable ou quoi, mais c'est vraiment intéressant. Il y a un récit où une fois, elle a failli mourir, puis désespérée, elle aurait crié à Dieu pour l'aide, puis en fait, elle aurait dit à Dieu, « Mais pourquoi tu n'interviens pas et tu ne réponds pas ?» Et c'est elle-même qui le dit, quasiment instantanément, il m'a répondu, « Ne te plains pas, c'est de cette façon que je traite mes bien-aimés. » Il y a la suite du dialogue entre eux. Elle va dire, c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à te suivre. Dieu lui aurait dit, elle dit, mais pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu n'interviens pas? Puis elle était dans une situation, elle allait mourir. Puis Dieu lui dit, ne te plains pas, c'est de cette façon que je traite mes bien-aimés. Il y a des fois des processus, puis j'aime bien le dire comme ça. Dieu n'est pas dans le fast-food. Dieu, il ne te fait pas un Big Mac en 2 minutes 30. C'est le temps pour un Big Mac, si jamais. Dieu, lui, il est intéressé par ta vie, puis ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais du coup, il faut qu'on apprenne la réalité des processus. Dieu est intéressé au processus. Et dans l'histoire de Lazare, ce processus est de 4 jours. Mais si tu lis la Bible, 4 jours, c'est vraiment peu. Il y a plein d'autres processus qui sont beaucoup plus longs. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire qu'on a lue, c'est que ces 4 jours de processus vont révéler 2 attitudes. L'attitude de Marthe et l'attitude de Marie. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre en nous plongeant un peu dans ces attitudes. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Tout d'abord, on va voir l'attitude de Marthe. Marthe, elle a envoyé le message avec sa sœur. On ne sait pas vraiment comment elles ont envoyé le message. On ne sait pas à quel point elles se sont entendues. Ce n'était pas un WhatsApp, hein, pour ceux qui ont compris l'allusion que je disais avant. Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Mais ils ont transféré, ils ont fait savoir à Jésus que leur frère Lazare était malade et que cette maladie était sérieuse. Et elles attendaient en particulier le retour de qu'est-ce que Jésus va dire, qu'est-ce que Jésus va faire. Elles étaient dans cette attente-là. 4 jours de processus, et voilà qu'on lui dit, Jésus arrive, il est en chemin. Et elle fonce vers lui. Puis elle est comme dans la tempête, elle est comme dans le stress. Elle a besoin de réponses tout de suite. Elle a besoin de maîtriser ce qui se passe. Corey Russell, qui est un pasteur, a dit « Marthe n'a pas l'expérience d'attendre et de s'asseoir devant le maître. En conséquence, elle est remplie d'anxiété, de crainte et de troubles. » Et ça, c'est ce que tu découvres si tu prends le temps de lire un petit peu, d'analyser un peu la discussion qui prend place. En fait, c'est vraiment le stress, l'anxiété de Marthe qui s'exprime, puis Jésus qui essaie de la calmer, puis Marthe qui revient à chaque fois. À l'inverse, Marie, elle est assise, en train de pleurer, et il semble qu'elle attend. Elle a sans doute eu aussi l'information que Jésus était en train d'arriver, mais elle ne s'est pas précipitée vers lui. Dans sa posture stressée, on découvre un petit peu Marthe, et puis je crois qu'on la comprend bien. Elle arrive, mais pourquoi t'es arrivé que maintenant? T'aurais dû venir plus vite. T'étais où, Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. Mon frère est mort, pourquoi t'étais pas là? Et ce stress-là, cette anxiété-là, cette frustration-là, sa tempête à elle, l'empêche d'entendre ce que Jésus lui dit, l'empêche d'accueillir véritablement Jésus. J'aimerais souligner quelques éléments de cette conversation, je vais juste la relire dans la Bible pour que vous ayez ça vraiment très au clair dans la tête. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Donc elle dit, « Tu aurais dû venir plus vite, maintenant il est mort, mais écoute, demande à Dieu, fais quelque chose, il est mort. » Puis Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Écoute sa réponse, « Je sais qu'il va ressusciter lors de la résurrection, le dernier jour. » Elle est trop pressée, elle ne comprend pas ce que Jésus est en train de lui dire. Elle n'arrive pas à entendre ce que Jésus est en train de lui dire. « Je sais, on va tous ressusciter, j'ai compris, c'est bon, j'ai la théologie, ok. » Puis Jésus continue, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et elle part. Vous commencez à saisir un petit peu comment elle n'a pas compris, comment elle n'a pas accueilli, comment elle a laissé son stress, son anxiété venir la pousser dans son interaction avec Jésus. T'étais où, Jésus? Il ne serait pas mort? Oui, il ne va pas mourir. Non, je sais, c'est bon. Mais quand même, est-ce que tu crois? Oui, c'est bon, je crois. Et elle part. Sans doute un peu frustrée, sans doute désemparée, parce qu'elle va faire un truc qui choque personne, mais juste après ça, elle va mentir, la femme. Elle va vers sa sœur, puis elle dit, le maître t'appelle. Ah bon? Vous avez vu Jésus dire, appelle ta sœur Marie, s'il te plaît? Vous avez vu Jésus dire, je préférais parler avec Marie? Vous avez vu qui que ce soit parler de Marie? Personne. Mais je pense qu'elle est frustrée. Je pense qu'elle est en colère. Il y a ce stress, ça c'est moi qui suppose. Hein. Mais à tout ça, elle ne comprend pas. C'est bon, Marie, vas-y, c'est bon. Il veut te voir, c'est sûr. Au passage, Marthe parle très très bien. Elle a les réponses à tout. Hein. Mais on ne dirait pas que Jésus est vraiment très touché par ça. Elle fonce vers lui. Elle dit à deux reprises, « Je sais ». Très intéressant, de nouveau, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Jésus était aussi appelé rabbi ou maître. Vous ne dites pas un maître, je sais, à chaque fois qu'il vous parle. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est le disciple et puis qui veut suivre et puis qui veut apprendre. Elle va lui dire deux fois je sais dans l'interaction, qui n'est pas longue au passage. Elle répond à tout, mais elle passe à côté du message de Jésus. Ton frère ressuscite, je sais. À la fin, là, l'histoire, ouais. Non, tu ne sais pas, Marthe. Je crois que Marthe ne sait pas s'asseoir au pied de Jésus, elle ne sait pas s'arrêter, elle est pressée et convaincue. Puis je crois que c'est le reflet de très souvent ma vie de prière à moi. Je vais vers Dieu avec mes certitudes, avec mon stress, avec mon anxiété, avec les choses qui... Puis je lui dis ce qu'il devrait faire, parce que je sais moi. Puis quand il ne répond pas tout de suite, ou quand ça ne va pas vraiment, je m'énerve un peu avec lui. Parce qu'il ne comprend pas vraiment, parce que je sais mieux. Maintenant on va regarder l'interaction avec Marie. Elle semble être quasiment la même au niveau des mots, encore une fois. Mais l'attitude est très différente. Si vous voulez la relire, c'est le verset 32. La posture est très différente. Puis j'aimerais souligner ces trois choses pour nous. La première des choses, ce n'est pas elle qui court vers Jésus avant que Jésus ne soit là. Mais c'est comme si elle attend d'être invitée par Jésus à parler. Il y a quelque chose de vraiment bon. Pour ceux qui sont familiers avec toutes les séries de messages qu'on a eus ici, j'ai l'impression qu'elle a une attitude no rush. Elle n'est pas dans le rush. Elle est dans la peine, elle est dans la souffrance, elle est en train de pleurer avec ses amis, mais elle n'est pas dans la précipitation. De foncer et dire à Jésus tout ce qu'il aurait dû faire. Elle est capable d'attendre. D'attendre d'être invitée. Il y a quelqu'un qui disait... Marthe, c'est le genre de personne qui court dans le cabinet du docteur, puis qui dit au docteur ce qu'il devrait faire. Marie, c'est le genre de personne qui attend que le docteur l'invite, elle est dans la salle d'attente, jusqu'à ce que le docteur dise « c'est à vous ». Comment est-ce que nous on est dans notre attitude de prière avec Dieu? C'est quoi la posture de notre cœur? Est-ce que l'anxiété, le stress, nos certitudes théologiques nous poussent dans cette attitude un peu comme Marthe ou comme Marie, on sait juste « je vais t'attendre ». Je t'ai envoyé un message, ça fait 4 jours, mais je vais t'attendre. La deuxième chose qui est intéressante, elle sait s'asseoir et attendre. Il y a un autre récit qui nous parle de ça, c'est un récit dans Luc 10, là on est chez Jean, l'évangile de Jean, mais il y a un autre récit, je vous ai dit, il y avait 3 fois où on voit Marthe et Marie, en tout cas où on parle d'elle, Marthe n'est pas présente dans le 3e récit. Mais dans Luc 10, qu'on peut supposer se passer avant ce récit-là, parce que Lazare, on ne nous parle pas qu'il est mort, ni qu'il est ressuscité, ni que c'est après. Donc on suppose, les théologiens supposent que le récit de Luc 10 se situe avant, dans la chronologie. En fait, il y a Jésus qui vient chez Marthe et Marie, puis on apprend une chose, c'est que Marie sait s'asseoir au pied de Jésus. Puis dans ce contexte-là, Jésus va dire, elle fait ce qui est juste, elle a pris la bonne part. Marthe, elle est affairée à vouloir s'occuper pour Jésus, pour faire, pour préparer. Puis elle s'énerve parce que sa sœur ne fait rien et reste assise au pied de Jésus. Puis Jésus lui dit, non mais ta sœur a compris quelque chose ici. Et c'est intéressant parce que dans le récit qui nous est dit, et c'est pour ça que j'ai essayé que vous puissiez le visualiser, Jésus arrive sans doute avec les disciples. Marthe vient, court vers lui, puis commence une discussion. Puis c'est un peu comme à la fin d'un cours à l'université, vous courez dans l'amphithéâtre pour parler au prof, maintenant qu'on a de nouveau le droit d'aller dans les amphithéâtres. Vous courez, et j'ai une question, il faut que je voie avant les autres, j'ai un truc à vous dire, j'ai un truc à comprendre. Puis Marie, elle l'attend. Puis quand elle arrive vers Jésus, il nous est dit, elle se jette à ses pieds. Elle reprend de nouveau cette posture-là. Elle reprend cette posture de, J'ai besoin d'être dans ta présence. J'ai besoin que tu... J'ai besoin de t'écouter. C'est pas toi qui dois m'écouter. Elle court vers Jésus, puis elle se met à ses pieds. Et quand elle se met à ses pieds, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une grande différence entre Marthe et Marie. C'est que Marthe, elle a parlé avec Jésus, puis elle a voulu prétendre savoir plein de choses. Marie, elle a ouvert son cœur, elle. Elle s'est mise à pleurer. Et là, je ne sais pas, je me mets à la place des deux, encore une fois, puis je n'ai pas perdu un frère, je ne sais pas ce que c'est d'attendre 4 jours quand vous avez quelqu'un qui est mourant, puis vous savez que quelqu'un a la solution à ça, ce quelqu'un, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que c'est. Mais quand je vois que Marie est capable de pleurer devant Jésus, je me dis, qu'est-ce qui se passait dans le cœur de Marthe pour que tu ne pleures pas? C'est ton frère qui est mort. Vous avez tous connu quelqu'un qui était dans le deuil, peut-être que vous avez même, vous, vécu des périodes de deuil, mais au moment où vous commencez à parler, il y a les larmes qui montent en général. Moi, on vous dit, il manque vraiment, et puis ça, c'est dur de juste garder parce qu'il y a les souvenirs qui remontent, il y a le visage qui revient. Mais Marthe, elle semble, elle, capable de parler, Marie, elle n'arrive pas. Elle s'assoit au pied de Jésus et elle pleure. Dans les 3 récits où il y a Marie qui apparaît ici, c'est la seule fois où on voit Marie parler. Et la seule chose qu'on entend dire, c'est « Où est-ce que tu étais, Jésus ?» et pleurer. Elle ouvre son cœur, elle ne prétend pas tout savoir, elle ne prétend pas tout comprendre, elle ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais elle est honnête et authentique dans sa posture. Première posture, une posture « J'attends, no rush. Est-ce que le maître est d'accord que je vienne? Est-ce que je peux aller vers lui ?» Et quand je suis invité, je me mets à ses pieds et j'ouvre mon cœur. Pas mon savoir, pas mes certitudes, c'est pas moi qui dis à Dieu ce qu'il devrait faire, c'est pas moi qui sais mieux que Dieu. Mais je lui ouvre mon cœur dans l'authenticité. Et dernier élément, elle pleure. Elle pleure, elle ose pleurer, et ça va avec l'authenticité. Et c'est intéressant parce qu'il semblerait que c'est cette attitude qui va toucher Jésus au point de le faire pleurer lui aussi. Cette posture de Marie dans l'intercession avec Jésus, semble toucher Jésus comme très peu d'endroits dans la Bible il a été touché. On nous dit à 2-3 fois, il a été ému, il l'aima. Mais là, il y a ces 2 mots qui forment au passage, information triviale pour vous, mais c'est le verset le plus court de toute la Bible. Jésus pleura. Fascinant. Arrête-toi un instant sur cette réalité, Jésus qui pleure. Je pense que ce n'est pas les mots de Marie qui le font pleurer. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans son attitude qui va toucher Jésus, qui va venir saisir le cœur de Jésus. Écoute ce que Charles Spurgeon a dit, haut théologien, grand théologien. Il dit « J'ai souvent été dérangé par l'homme qui, qu'importe qui c'était, a découpé le Nouveau Testament en versets. » Et un peu plus tard, dans cette citation, il dit « Néanmoins, je lui ai beaucoup pardonné à cause de sa sagesse à laisser ces 2 mots ensemble et seul. Jésus pleura. » C'est un diamant brut et on ne peut rien y ajouter, c'est unique. Si tu vas pas trop vite dans ta Bible, il y a des moments comme ça, il y a des perles comme ça, où tu t'arrêtes, puis tu es saisi de cette réalité. Jésus pleura. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a touché son cœur? Je me demande si dans le monde qu'on vit, en tant que chrétien, dans notre vie de prière, dans notre relation à Dieu, on sait encore attendre, on sait encore nous asseoir à ses pieds, et on sait encore être vrai et vulnérable. Je me demande ça. Je me demande ça pour moi-même. Je te dis, cette étude sur Marthe et Marie m'a bouleversé, moi, le premier. Parce que je me suis reconnu très souvent dans la posture de Marthe. Aller vers Dieu avec mon savoir, avec mes études, avec ce que j'ai découvert dans la Bible, avec mes révélations à moi. Lui dire ce que lui devrait faire. Lui dire pourquoi lui était en retard. Lui dire pourquoi lui n'a pas compris. Incapable de juste m'asseoir à ses pieds, de juste l'attendre, incapable de, dans la société dans laquelle on est, incapable d'accepter le processus, de dire des fois il y a des choses qui prennent du temps. Est-ce que ça m'embête? Oui, ça m'embête. Mais qu'est-ce que cette attente, qu'est-ce que ce processus va révéler de mon cœur, de mon attitude? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Je te demande pardon aussi parce que parfois dans l'église on a été beaucoup comme Marthe. Avoir la réponse parfaite. Tu viens avec une histoire, une situation, avec... Et puis, non, mais tu comprends parce que... Puis on te cite la Bible. Puis... Ok. On n'a pas su être avec toi. Dans le récit, je n'ai pas insisté sur ça. Mais dans le récit, il y a les Juifs qui sont avec Marie, puis qui suivent Marie, puis qui pleurent avec Marie, puis quand elle se lève, ils vont avec Marie. Puis je me dis, est-ce qu'on n'a pas aussi à apprendre de ça? De se tenir avec les personnes. Être avec les personnes. On a des phrases pour tout, on a des super formulations, on a des raccourcis merveilleux, on en fait des stickers. Mais parfois, on a juste oublié cette posture. De s'asseoir au pied du maître, puis d'être capable de pleurer, puis de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Avec ce message, j'ai à cœur de te challenger dans ta posture à toi. On vient de passer bientôt 2 ans où j'ai vu beaucoup de chrétiens être sûrs de beaucoup de choses, notamment avec cette histoire de Covid. J'ai dû faire des détox de réseaux sociaux là. Parce qu'il y avait trop de monde qui était sûr de trop de choses. Puis qui critiquait très facilement tous les autres qui ne pensaient pas comme eux. Puis qui étaient convaincus de savoir mieux. Puis qui nous révélaient des choses. Puis encore, et puis encore, et puis. J'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir une posture de prière qui revient. Une posture d'intercession avec Dieu qui revient. Et je crois dans le fait que Dieu nous parle. Puis je crois dans le fait que quand Dieu nous parle, il y a des certitudes à avoir. Mais je crois que ça devrait commencer par cette posture-là. Je crois que là, on a vraiment des choses à réapprendre. Est-ce qu'on vient vers Dieu avec notre bonne théologie, nos bonnes phrases, mais un sens du « moi je sais et tu dois faire comme moi je veux », l'attitude de Marthe? Ou est-ce qu'on sait venir, comme Marie, prêt à s'asseoir, prêt à l'écouter, prêt à attendre qu'il nous invite, prêt à nous rendre vulnérables, à pleurer devant lui? Tout du long que je préparais ce message, je pensais à un verset dans les psaumes où David dit qu'il pleure dans son oreiller. Son oreiller est rempli de ses larmes. Je me dis, il y a peut-être quelque chose qu'on doit réapprendre dans les pleurs. Et je crois, les amis, là derrière, il y a surtout quelque chose qui est, je vais le dire vite, et puis si tu ne comprends pas le mot, on en reparlera, mais une forme d'idole de la société occidentale qui est le contrôle. On veut tellement être au contrôle de tout. Ça devient une idole. Puis au moment où on ne maîtrise pas tout complètement, Dieu a un problème. Parce que moi, je ne suis plus au contrôle. Dieu a fait faux parce que moi, je ne suis plus au contrôle. Je crois que dans ces attitudes-là, dans cette posture, dans notre vie de prière, il y a un lâcher-prise qui doit prendre place. Et c'est ce qu'on voit avec Marie, il me semble. Alors, tu peux te poser ces questions, malgré ce que notre société nous dit, avec des pizzas qui sont prêtes en 20 secondes, des pages internet qui se chargent en moins d'une seconde, des téléphones qui ont la réponse à tout le plus vite du monde possible. Est-ce que tu es capable de dire « Je vais t'attendre, Seigneur. Je vais accepter tes processus. Je vais te laisser être au contrôle de mon temps à moi. » Est-ce qu'on va être capable de nous rendre vulnérables, de s'asseoir à ses pieds? Comme je l'ai dit plus largement, toute cette série, c'était une série sur la posture, une série sur nos postures. Puis on en a vu 3 ensemble, puis on va continuer la semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série. Je te l'annonce, spoiler alerte, tu peux venir la semaine prochaine, on va parler de Philippiens, on va se plonger dans un livre de la Bible, on va lire ensemble Philippiens pendant 4 semaines. On aura chaque semaine un chapitre, et puis on va creuser ça ensemble, on va voir un petit peu ce que Paul dit aux Philippiens, puis ce que nous, on peut en retirer aujourd'hui. Mais alors qu'on repart et puis qu'on avait cette impression qu'il fallait qu'on retrouve un rythme, et plus qu'un rythme, une posture de cœur, est-ce que ta posture a changé avec cette série? Concernant la présence de Dieu, concernant la générosité, concernant la vie de prière aujourd'hui. Pose-toi cette question. Ce qui change est beaucoup plus important que ce que tu entends. Parce que le Seigneur, il n'est pas intéressé par des gens qui ont la bonne réponse, mais par des cœurs qui sont transformés. Donc ce qu'on va faire de tout ce qu'on a entendu là est beaucoup plus important que ce qu'on sait de plus. Et c'était toute une série sur la posture. Alors, j'ai envie de dire, check ton cœur, check tes attitudes. Moi, avec cette série, j'ai recommencé à dire des choses que je savais, que je voulais, mais que j'avais peut-être un petit peu oubliées. Seigneur, je veux ta présence, pas les bénédictions, pas la terre promise, je veux être avec toi. Et c'est ça le plus important. Seigneur, je vais être généreux parce que connecté à toi, je suis conscient que tu veilles sur moi, puis je n'ai pas de raison d'être dans la crainte de manquer. Alors apprends-moi à savoir être généreux, véritablement. Et aujourd'hui, ma prière, c'est Seigneur, apprends-moi à être comme Marie, capable d'attendre, de m'asseoir à tes pieds, puis d'être vulnérable.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.